grosses économies sur votre assurance de prêt, votre assurance auto, habitation, votre assurance vie. Les meilleures garanties au meilleur prix, c'est chez Francis Aléonard, 145 avenue de la République à Montluçon. Francis Aléonard, l'assureur, vous donne l'heure.
Service du sport local. Dès la sortie des vestiaires, 17h-18h30. Soyez les premiers informés sur toute l'actu sportive de la région. Café des Sports, rediffusion de 18h30 à 21h. C'est avec Christophe Folipron et Bounty sur RJFM.
Il passe son adversaire direct, il centre la tête, la lucarne, c'est le but.
L'essentiel du sport local et régional. Résultats, analyses, commentaires. Le Café des Sports. Café des Sports. Présenté par Christophe Hennebon et Bounty.
Bonjour, messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce Café des Sports, version du dimanche 11 novembre, avec une actu un petit peu plus calme, donc grosse partie de magazine. Notamment, nous parlerons moto d'ici quelques instants avec Jules Cluzel, le pilote montluçonnais, vice-champion du monde Super Sport 2016. Jules qui nous parlera de toute cette saison 2016, justement, de ses espoirs, de ses déceptions, peut-être de son avenir. Enfin, ce sera tout à l'heure dans le Café des Sports. Autre aventure, autre forme d'aventure, autre défi, autre rêve, et bien c'est celui qu'a réalisé Jean-Pierre Duverger, président du Montluçon Athlétisme, coureur devant l'éternel, et puis qui vient disputer le marathon de New York. C'était il y a quelques jours à peine. Dépaysement total et passion à l'extrême de la course à pied, 42 km 195, et une surprise tout à l'heure, ça sera dans la troisième demi-heure de ce Café des Sports. Je vous souhaite une très très belle émission à vous aussi.
She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby.
dimanche. Tous les jeudis, des soirées de folie, des soirées étudiantes. Deux salles avec une ambiance de ouf, une salle années 80 et du pur son actu les vendredis et samedis. Sauf ta volonté pour tous. Le dimanche, c'est Guinguette avec Orchestre Musette. Le Diaps, au cœur de la ville, parking Athanor. Le Diaps, la vraie manière de vivre la discothèque.
Essentiel des résultats sportifs locaux et régionaux. Pour le sport, Christophe Philippon et Bounty.
Si on t'avait dit ça avant le début de la saison, vice-champion du monde, derrière Kenan Sofoglu, si on t'avait dit ça en début de saison, Jules, bonjour tout d'abord, t'aurais signé ?
Ouais, bonjour, oui j'aurais signé, j'aurais signé, parce que au mois de novembre, quand j'ai testé la nouvelle moto en version, en début de version 2016, j'étais pas très optimiste. parce que ça semblait vraiment compliqué et ça s'est confirmé au mois de janvier quand on a refait les tests juste avant que les motos partent pour la première course en Australie. Je me suis dit que là, vu qu'on a un certain nombre de moteurs sur tout le long de la saison et que c'est ça qu'on va avoir au début, ça va être compliqué. Et oui, donc j'aurais signé pour être champion du monde.
D'entrée de jeu, les sensations n'ont pas été super avec ce modèle-là de MV Augusta. Ça s'est confirmé toute la saison. T'as dû te battre et t'as extrêmement bien géré l'affaire quand même.
Ouais, non, je suis content. Franchement, je pense que ces difficultés servent. J'en suis sûr. Ça sert tout le monde parce que quand il faut réussir à se battre à part négale, je pense que ça fait apprendre des choses et j'espère, dans le futur, ça va pouvoir me sourire avec une moto peut-être un petit peu plus facile.
À quel moment tu t'es aperçu dans la saison que pour le titre, c'était un petit peu mort quand même?
Très rapidement, franchement, pour être clair, même si je gagne la deuxième course en Thaïlande et je me retrouve, je pense, deuxième championnat, même en tête, à ce moment-là, je sais que la saison se lance vraiment quand on arrive en Europe. Et ça s'est confirmé quand on arrive en Europe. On a eu des conditions plutôt climatiques très compliquées, avec pas mal de courses sous la pluie et surtout pas de développement chez MV Agusta. Et voilà, on a fait plusieurs résultats à moyen. Et au championnat, on s'est retrouvé tout de suite assez loin. Et là, j'ai compris que de toute façon, cette année, il fallait surtout essayer d'espérer à la course, faire des podiums et si possible quelques victoires. Mais championnat, franchement, j'ai pas trop pensé en fait, à part la dernière course.
Franchement, ça doit être hyper frustrant de voir que toi, t'avais des victoires sur le guidon, t'étais bien. Et de voir que l'équipe, le team, en règle générale, ne développe pas la moto. Il y a des fois, tu dois taper après les murs, non?
Ouais. Dans le box, pour s'en rendre compte.
Ouais.
Ça a été très frustrant. Il a fallu prendre son mal en patience, mais j'y arrive pas. C'est pas mon tempérament, parce que j'ai vraiment envie, même s'il n'y a pas trop de solutions, de faire bouger les choses. Mais il a fallu faire ce qu'on avait, finalement, je l'ai compris sur la fin de saison. Et essayer de quand même d'aller chercher une deuxième place au championnat.
Ce qui est bien, c'est que déjà, tu t'es pas mis par terre, t'as super bien géré avec cette moto difficile. Et puis, il y avait quand même la carotte de la deuxième place du championnat du monde. C'était pas gagné d'avance, à un moment donné, moi qui ai suivi tout le championnat. Et puis là, course après course, tu as géré, tu as gagné, tu as fait du podium et finalement ça passe à la dernière course. Ça doit être une super satisfaction.
Ouais, j'étais super content. La place de champion du monde était déjà jouée, donc on jouait la place de vice-champion, on était trois. Moi, j'étais le deuxième au niveau des points. Et c'était super serré, donc je portais vraiment pas gagnant par rapport à cette bataille-là, parce que le Qatar est un circuit plutôt rapide. Et au vu des difficultés qu'on a eues cette année, je pensais que ça allait être plus compliqué. Donc finalement, j'ai réussi à bien m'en sortir, j'ai réussi à accrocher le bon wagon dès le début de course, à être assez agressif. Et de là, j'ai réussi un petit peu m'échapper du groupe qui se battait avec moi pour la deuxième place. Et j'ai géré sur la fin de course pour essayer d'éviter déjà la chute et croiser aussi les voies pour qu'il n'y ait pas de problème mécanique, ça tienne jusqu'au bout. Et globalement, ça a tenu et ça a été un super soulagement. Et pour moi, c'était comme une victoire, parce qu'après la saison compliquée, la belle seule l'année dernière, tout cet enchaînement de choses ont fait que ça y est, j'ai rempli ma mission, quoi.
Jules, dès la fin de saison, dès l'après-Qatar, là, tu t'es mis, déjà, tu avais une déception par rapport à un futur team pour la saison prochaine. Tu as continué à te battre pour avoir un guidon fiable pour la saison prochaine. Et ça en est où, cette affaire?
Beaucoup de déceptions sur cette fin de saison, parce que c'était sur un plan qui me faisait un peu rêver, parce que officiellement, Yamaha revient en championnat du monde. Et cette moto, même l'ancienne, elle est toujours très bonne. Donc je pensais la vérité plus que tout le reste. Même Tenas Kofoglou, ayant déjà signé son contrat en début de saison, lui n'était pas sur le projet. Et finalement, ça, il y a eu des mauvaises nouvelles. Il y a des choses un peu, c'est pas qu'un peu, c'est politique. La décision a été prise par une personne sans parenter aux résultats et au palmarès surtout. Et donc voilà, j'ai eu de la déception, je l'ai exprimé à la télé à l'arrivée de la course, parce que j'étais surtout content de ma course et content du travail que j'avais fait, donc j'ai voulu exprimer ma déception pour le bilan. On est dans une situation compliquée globalement, que ce soit chez nous dans le sport, mais dans la vie de tous les jours pour les gens. Et aujourd'hui, même en étant champion du monde, je galère simplement pour trouver un bilan, donc ça fait un peu peur.
Les pilotes, c'est marrant, vous êtes un peu comme vos machines. À l'intersaison, vous refaites un petit peu de la vidange, vous maintenez, vous faites un petit peu opérer, réparer votre machine à vous finalement. Hein.
Ouais, on refait le moulin, comme dirait.
On refait le moulin. J'adore.
On refait le moulin, c'est l'objectif. Là, aujourd'hui, la machine, c'est pas la priorité, c'est moi. Je me suis fait opérer là pour me remettre une épaule qui ne gênait pas vraiment, mais ça me gênait un peu sur l'entraînement. Et aujourd'hui, c'est fait. Je vais attendre un peu. Et puis fin décembre, début janvier, on se remet à fond. Encore plus qu'avant parce que l'épaule sera à fond. Donc j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. En plus, je suis en train d'organiser un petit peu autour de moi des choses pour pouvoir rouler un peu plus en moto en dehors. Et il faut que je roule un peu plus, et c'est ce que je vais faire l'année prochaine.
Le niveau global de la moto, je suppose que tu suis un petit peu même toutes les catés, on va dire, c'est toujours aussi dense ou il y a vraiment encore une élite?
Non, globalement toutes les catégories sont relevées. Après c'est vrai que tout dépend aussi des différences matérielles. On peut voir en MotoGP, il y a eu 9 vainqueurs cette année, c'est exceptionnel. Mais on voit toujours quand même les mêmes devant, c'est toujours un peu comme ça. Aujourd'hui, la catégorie est quand même dominée par Sutoglu. Lui, des saisons noires, il en a eu. En 2012, il gagne le titre, mais en 2014, il était 8e. Donc il y a des hauts et des bas. Et je pense que l'année prochaine le super sport va être encore plus relevé parce que en moto 2 il y a pas mal de pilotes qui se retrouvent sur la touche avec des petits jeunes qui montent et c'est des très bons pilotes qui ont été champions du monde même en catégorie reine donc pour nous c'est bien, pour moi ça va être encore plus compliqué parce que ça sera encore plus relevé mais ça me plaît même si ça fait toujours un peu plus peur si je gagne devant encore plus de pilotes qui m'ont fait rêver un jour, c'est encore mieux quoi.
Alors, moi j'ai vraiment l'impression vu de l'extérieur et des gens qui connaissent très bien la moto aussi que cette année t'as vraiment franchi un cap notamment dans la gestion des courses avec une machine très très difficile, on le rappelle, mentalement t'as tout le temps été là et je sais pas comment tu le ressens toi mais je pense que tu peux vraiment être fier de toi à donf là.
Ouais, non, je suis content, franchement, ouais.
T'as aucun regret à voir, enfin, je veux dire, voilà.
Non.
Tu vois, il y a des saisons, tu pouvais te dire, j'en ai fait une là, peut-être que j'aurais pas dû, machin, mais là, t'as fait des courses, copain, ça tenait la route, hein.
Ouais, je sais que je peux encore faire mieux, je peux encore progresser, on peut toujours progresser, toutes les saisons.
Bien sûr, sinon t'arrêtes.
Ouais, sinon j'arrêterai, parce que l'objectif, c'est de toujours gagner et de continuer, de prendre du plaisir. Mais c'est vrai que je suis trop fier de cette saison, parce que ça a été compliqué, comme tu l'as dit, et j'ai fait très peu d'erreurs. Mais bon, je pense que ça s'appelle l'expérience, tout simplement.
Bien sûr.
Voilà, j'ai 28 ans maintenant.
Déjà
plusieurs saisons derrière moi, déjà. Mais c'est là où je me sens plus en forme, donc ça, c'est bon signe.
Ouais.
Ça veut dire que je vais pouvoir continuer encore plus longtemps.
T'arrives sur tes meilleures années, peut-être, hein.
Ouais, je pense. L'expérience, c'est... Maintenant, ça me parle. Je comprends ce que ça veut dire. Je le ressens. Je pense qu'il y a 5 ans de là, j'aurais peut-être eu plus de chutes en course parce que je me serais peut-être un peu énervé et excité, alors que la moto est un peu compliquée. Et c'est vrai que cette année, j'arrive sûrement plus faire mieux, mais je suis quand même fier de ce que j'ai fait parce que Parce que au niveau championnat, il n'y aurait pas eu moyen de terminer, il y aurait eu moyen de le faire.
Bah, donc, c'est clair. Par rapport à ton matos, ça passait pas, quoi.
Voilà. C'est ça.
Merci beaucoup, Jules Cluzel, d'avoir été avec nous dans ce Café des Sports pour ce débrief un petit peu complet. Là, c'est un petit peu de repos quand même. On se prépare physiquement tranquille. Et puis, tu rattaques donc début d'année, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ouais. Début d'année, on a deux fois deux jours de test. Ouais. Et là, c'est une période un peu salon de,
ouais, bien sûr,
salon de la moto, Italie, voilà, préparation.
Tu vas faire voir ta petite tronche un petit peu partout. Voilà.
Voilà, c'est le boulot aussi.
Ouais, ok. Merci, Jules.
Merci à toi,
Tof. À bientôt, ciao.
Ciao.
De 17h à 18h30, l'indispensable de l'actu sportive locale et régionale. C'est tout le Café des Sports, ça. 17h, 18h30, avec rediff 18h30, 21h. Bienvenue dans votre espace de sport.
Come on, tell me.
Avec vin, tapas, verrine et tout type de conso. 22h30, l'Amnésia, bar à thème, vous fera passer des soirées inoubliables. DJ en cabine, soirée étudiante les jeudis, soirée go-go dance. L'Amnésia, before jusqu'à 2h du mat. Retrouvez-nous sur notre page Facebook, Amnésia Montluçon. Pour votre santé, attention à l'alcool.
Good morning Montlu, 6h-9h du lundi au vendredi. C'est le plus pertinent des matins, de l'info locale. Des invités, des jeux, des chroniques et un large sourire. Le dynamisme d'RGFM. Good morning Montlu, le matin, c'est vraiment bien. Oui, c'est
c'est vraiment bien.
Maison et Architecture vous présente Good Morning Montluçon. De l'idée à la clé, je choisis Maison et Architecture. Maison et Architecture, 31 rue Paul Constant à Montluçon.
Tout le sport local et régional dans le Café des Sports. Tous les résultats du week-end, interviews et analyses. Les résultats de l'info sportive dans le Café des Sports sur RJFM.
I can't.
des matins, de l'info locale, des invités, des jeux, des chroniques et un large sourire. Le dynamisme d'RGFM. Good Morning Montlu, le matin, c'est vraiment bien. Oui, c'est vraiment bien.
Maison et Architecture vous présente Good Morning Montluçon. De l'idée à la clé, je choisis Maison et Architecture. Maison et Architecture, 31 rue Paul Constant à Montluçon.
Un seul diable, il y a. Du jeudi au dimanche, tous les jeudis, des soirées de folie, des soirées étudiantes. Deux salles avec une ambiance de ouf, une salle années 80 et du pur son actu les vendredis et samedis. Sauf ta volonté pour tous. Le dimanche, c'est Guinguette avec Orchestre Musette. Le Diaps, au cœur de la ville, parking Athanor. Le Diaps, la vraie manière de vivre la discothèque.
Se trouve dans le Café des Sports. Tous les résultats du week-end, interviews et analyses. Encore plus d'infos sportives dans le Café des Sports sur RJFM. De 17h à 18h30. Et la rediff de 18h30 à 21h. Alors, ne loupez rien.
C'est le but !
Mercredi, et c'est Jean-Pierre Duverger, président du Montluçon Athlétisme et grand coureur s'il en est, On va dire ça comme ça. Salut Jean-Pierre.
Salut Christophe.
Ravi de te retrouver. Toi, le nouveau cowboy des temps modernes, avec Joss, avec toute une bande. Tu reviens du marathon de New York. Une petite épreuve de 42 bornes, mais ça, on le savait. Avec combien de participants?
Je ne sais pas exactement. 50 000, au moins. C'est très, très, très impressionnant.
Ah bah, moi, j'ai vu à la télé, je t'ai cherché d'ailleurs vainement. Je vous ai cherché vainement.
Alors, on m'a vu. Mais, mes enfants m'ont vu. Enfin, il y a plein de copains qui m'ont vu. Alors, d'ailleurs, enfin, je vois, mais c'est marrant que France 3 retransmette le marathon de New York, ça c'est bien. Et en plus, jusqu'à des places qui sont extrêmement éloignées. Ouais. Donc, ouais, c'est vachement bien ça.
D'accord. Donc c'est une aventure pour l'aventure, le sportif. On en parle tout de suite, ça sera fait. Ça n'a pas été génialissime au niveau des sensations, par contre.
Non. Comme je disais, déjà on avait une préparation qui était un peu chantée. Enfin, on a moins respecté la distance qu'avant parce qu'on est pris par le travail, par des choses, par le club. Enfin bon, tout un tas de choses. Et voilà. Donc on y allait surtout pour le plaisir. Après, participer à l'épreuve sportive, c'était important. Et puis, c'est les aléas du marathon et ça s'est pas super super bien passé au niveau gastrique notamment. Voilà, c'est comme ça. Après il y a une vraie souffrance physique au cours de l'épreuve, tout ça, qui est jumelé à un vrai plaisir d'être là parce que, et de toute façon, il n'est pas question d'abandonner, enfin, on n'en est pas là, quoi. C'est, faut finir avec tout le monde, on rentre à la ligne d'arrivée, c'est comme ça.
Le principe, c'était de rentrer, on va dire, c'est ça.
Absolument. Absolument.
Vous avez fini, comme disent les coureurs, on a fini, on a terminé, on vous êtes rentré. Mais voilà. Alors, moi, je t'appelais pour avoir une image de l'intérieur, si tu vois ce que je veux dire, JP. C'est, ouais. Tu me disais impressionnant, c'est la grosse pomme, c'est 50 000 personnes qui courent, des milliers et des milliers de spectateurs.
Ouais, absolument.
C'est quoi
moi, j'ai entendu dire 2 millions sur tout le parcours, mais c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que, le matin, alors, il y a le décalage horaire, nous, on était arrivés mercredi dernier. Le décalage horaire, faut se le manger un petit peu dans ce sens-là. Et le jour du marathon, nous, on était partis avec un voyagiste. Donc il y a une organisation avec le petit déj. Donc le jour du marathon, c'est lever 4h du matin pour aller déjeuner à 5h et puis partir en bus pour rejoindre Staten Island, l'île où il y a le départ. Et là, c'est des dizaines et des dizaines de bus diverses, des gens, des coureurs. Alors c'est pas un marathon. Bon, évidemment, enfin j'ai même pas vu les premiers pas aperçus. Ça part par vague. Nous on a trouvé que c'était drôle dans le sens où c'était un marathon populaire où les gens viennent courir quelque chose. C'est des vrais sportifs, mais en même temps c'est pas des vrais sportifs, c'est des joggeurs qui viennent courir le marathon. Vraiment, c'est un truc extrêmement populaire. Et alors ça déverse des centaines de personnes sur Staten Island. Et là, il faut attendre l'heure de départ. Donc c'est de champ de bataille. Karine Falgon m'avait dit, elle l'avait fait il y a quelques années, une masse de champ de bataille, il y a des gens couchés partout, il faisait super beau et on attend l'heure, quoi.
Et la première image que tu gardes?
C'est quand on passe sur le pont, quand on arrive en bus, on passe sur le pont là, pour Verrazzano, pour rejoindre Staten Island. Et là on se dit on y est, quoi. Et puis après on est déversé par sur cette île pour aller prendre le départ et attendre. Et là c'est des j'allais dire c'est des centaines de personnes, non, c'est des milliers de personnes, quoi.
Et tu ressens une vraie, on peut parler d'émotion hein, à ce moment-là.
Ah ouais,
même
vraiment.
Si dans jeu, même si l'enjeu, c'est pas une médaille olympique, hein,
on l'a compris,
mais il y a quand même l'émotion qui est là.
Tu sais, je vais te dire, moi je suis moulissonné, j'ai toujours aimé la course à pied. Quand j'étais gamin, j'allais à l'école Jules Ferry et je faisais le tour des marronniers en prenant pour Michel Jazzy. Là j'étais à la fête mondiale de la course à pied. C'est énorme.
Donc départ, qu'est-ce que vous dites avec Joss, tout ça, avec des...
Déjà on était quatre. Enfin, il y avait Cathy là, l'ami de Joss. Puis on avait rencontré des amis. Alors après, selon les objectifs de chacun qu'on avait ciblé, on était placés dans des sas différents. Donc on n'est pas partis en même temps. Enfin, moi je suis parti avec Joss. Évidemment, encore toujours tous les deux. On se dit on y va. Puis ça part directement sur le pont Verrazzano. Donc ça monte. Mais on est pris dans un flot énorme. Donc on se laisse aller. Et puis la course, si je peux dire, elle commence. elle commence un peu plus loin et elle commence jamais parce qu'après on est spectateur de ce qu'on vit, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens partout. De chaque côté de la route qui crie, c'est proche de, enfin, des fois je me suis dit mais c'est d'hystérie, des fois enfin quand on fait des courses à l'arrivée il y a des gens qui crient et puis ils vont s'emporter, on va un peu plus vite et là ça serait un peu le syndrome de l'arrivée mais tout le long à part dans le quartier juif où il y a moins d'ambiance, mais sinon c'est fou, les gens mettent des panneaux, ça crie, il y a des groupes de rock, de jazz, c'est hallucinant. Non c'est vraiment extraordinaire.
Il y a des endroits pèlerinage sur le parcours où ça se fait tout dans le... c'est énorme partout quoi.
Non, c'est énorme partout. Ouais. C'est fabuleux. Après, il y a des passages un peu plus calmes. Il y a un pont là dont je sais plus le nom, qui est super long, qui fait plus de 2 km, où là évidemment c'est le silence et c'est long. Et là, c'est autour du 27-28e kilomètre. Là, ça commence à taper. Ça commence à taper dur, quoi.
Ouais, bien sûr.
Et bon voilà, mais non. C'est... Et puis après, on arrive dans Manhattan et c'est les derniers kilomètres sont dans Central Park. Donc là, bon, c'est pareil. Et on a eu beaucoup de chance avec la météo. Il faisait un soleil radieux, je crois qu'il faisait 13 degrés.
Il faisait beau, ouais.
Non, c'est extraordinaire.
Tu le disais avec cette ambiance-là, t'as même pas le temps de la souffrance finalement ou de penser négative en disant allez je me pose sous le trottoir et basta quoi.
T'es
entraîné jusqu'au bout là. Hein.
Ouais. Alors de toute façon, ça c'est complètement analysé. Enfin moi le marathon je connais bien, j'en ai fait, je sais pas, je crois que c'était mon 16e. On sait où on va. De toute façon quand on regarde autour de soi, on voit les coureurs. À un moment donné, moi ça m'a sauté aux yeux. Tout le monde a une foulée. Qui ne sent plus à rien, quoi. On est fatigué, c'est évident, mais tout le monde continue. Donc voilà, non, alors moi j'avais des problèmes gastriques et mal aux jambes, bon, ça n'avançait plus. C'est une chose qu'on met d'un côté, et puis de l'autre côté, ben, on le finit parce qu'on est à New York. Enfin, je serais, je sais pas où, moi dans ma, entre guillemets, carrière de coureur, j'ai dû abandonner une fois, c'est tout, mais on va pas au-delà de la souffrance, il n'y a pas de danger, il y a le plaisir d'être là quand même, quoi. Vraiment.
Et une fois qu'on voit la ligne, là, c'est un soulagement quand même, malgré que ce soit le pied total sur 42 bornes.
Ouais, c'est le pied total. Moi, j'étais malade sur la ligne d'arrivée, mais ouais, c'est le pied, puis 5 minutes après, j'étais bien, enfin, voilà, ouais, mais c'est une fête énorme. Et puis on arrive dans Central Park, alors bon, c'est l'automne, c'est beau. Tout à côté, il y a des immeubles immenses. On lève la tête. On est dans un monde à part. Vraiment. On me l'avait dit, mais j'ai pas connu d'autres trucs comme ça. Après, c'est pas un marathon sportif. C'est un marathon difficile d'abord parce qu'il y a du dénivelé. Il y a pas mal de rues qui montent. Voilà, faut pas y aller pour faire un temps. Et puis, ça serait dommage. Ou alors, à moins d'être vraiment inquiet, quoi. Mais c'est un marathon qui est difficile par son parcours.
Jean-Pierre, l'arrivée, tu le disais, bien vécu, et tu regardes les autres arriver, tu cherches les premiers, tu sais quoi, tu récupères avant tout.
Les premiers,
c'est ça.
les premiers, il y a longtemps qu'ils sont arrivés. Hein. Moi, j'ai fait 4h08, les premiers, j'ai même pas regardé là, mais il y a 2 heures qu'ils sont arrivés, les premiers.
Ouais, c'est ça, en gros. Ouais.
Donc, ils sont bien loin, et ça arrive par vagues. Et puis après, c'est un défilé, alors on nous remet la médaille. C'est très très important, il y a un truc qui est génial, on remet la médaille, après on remet une couverture de survie, après on nous donne du ravitaillement et on marche, et c'est un long défilé, presque aussi long que le marathon, un long défilé où on marche, on récupère, et puis pour sortir du site, et alors quand on sort du site, on récupère un bon de chaud, on est bien chaud, bon il faisait pas super super chaud quand même, en fin d'après-midi là, quand ça arrive,
ouais.
Et alors là t'as les spectateurs, les familles, les amis qui viennent chercher les coureurs, et là ça dure, je sais pas, peut-être 1 kilomètre, j'en sais rien, où c'est une foule immense, et on passe au milieu, et les gens vous félicitent, sans se connaître, c'est fou, et ce qui est marrant, après les 2 jours suivants, donc là on a couru dimanche, lundi, mardi, on se balade dans la rue, tout le monde se balade dans la rue avec sa médaille.
Bah ouais, je comprends.
Ah bah on le fait pas à Montlieu, hein.
Vous faites partie de la grande famille maintenant.
Ouais, c'est fou. Et des gens, alors on croise des marathoniens, évidemment, qui ont leur médaille, machin, le lundi, le mardi, enfin ouais, c'est...
Ouais, mais ça, je te crois tout à fait, ouais.
Ouais, non, c'est super marrant, c'est très américain.
Ouais, voilà. C'est très américain. C'est ce que je viens de dire, c'est très très américain. Alors, ouais. Tu sais, pour l'anecdote, je sais pas si on t'a dit parce que tu viens d'arriver, mais on a fait un direct dans le Café des Sports. Enfin, Bounty a fait un direct du marathon de New York dans le Café des Sports. Il y avait un site qui retransmettait la course. Et il y avait un site où tu rentrais les numéros, les noms des coureurs, et tu pouvais suivre les petits Guinéens qui couraient. Alors, et voilà, pendant trois quarts d'heure, il m'a fait, bah tiens, il sort d'un tel rue, oh, il vient de passer le pont de machin, etc. Donc il était content comme tout.
Ah, c'est génial.
Donc il a fait un direct de Joss et puis de toi, donc, dans le Café des Sports.
Ah, c'est génial, je savais pas.
Ouais, je te retrouverai la séquence, hein, je te dis comme ça à l'antenne, mais je te retrouverai la séquence, c'était vraiment très drôle, et tu vas être mort de rire. Tu pourras l'allumer parce que maintenant il court un petit peu, donc tu le croises parfois.
Ah, il court bien, il court bien même.
Il a annoncé quand même le temps du vainqueur. Je lui ai dit arrête, t'es ridicule. Il me dit ça y est, le premier vient d'arriver, 1h35.
Ah non.
Mais je dis, Poun, c'est pas possible, 1h35.
Non, c'est pas possible.
C'est pas déjà le record du monde, il y a 2 minutes, 2 heures en gros.
2h35.
Donc le vainqueur de cette année, 1h35. C'était pour l'anecdote et c'était notre premier direct de New York.
Mais ceci était vachement bien. Moi, j'avais donné à Poun, j'avais mis sur Facebook pour que les gens suivent. Il y a beaucoup de gens qui ont suivi. À mon travail, ils ont passé l'après-midi sur France 3. Alors, vraiment, je comprends pas. Ils ont regardé comme si on était des stars, alors que bon, franchement, y a pas de quoi, mais l'aventure est belle, et ce qui est bien, c'est de la partager. Moi, j'ai aimé ça. Après, oui, voilà, le côté sportif, c'est autre chose, mais partager cette aventure, ça vraiment, enfin, une aventure. C'est une aventure qu'on a achetée, hein, c'est un voyagiste, machin, mais il faut y aller, c'est une expérience extrêmement intéressante.
Et je sais pas si t'as connu, on va terminer avec ça, avec un peu de poésie féminine. Il y a une Molussonnaise, enfin, qui était à Molusson, qui était prof de gym, je crois, qui a terminé dans les trois marathons de New York. Elle s'appelait Bonnet.
Françoise Bonnet.
Exactement.
Alors, Françoise Bonnet, elle a mon âge, à peu près.
Ouais.
Et alors là, j'ai une anecdote croustillante. Puisqu'on était tous les deux aux îles Espoirs Molussonnais, à l'époque, quand j'avais, je sais pas, 15-16 ans.
D'accord.
Et je courais avec Françoise Bonnet, et un des entraîneurs du club, quand on faisait le footing, nous avait dit, vous êtes aussi nuls l'un que l'autre. Et Françoise a fait troisième au marathon de New York, elle fait partie de l'équipe de France de marathon.
Ouais,
donc,
t'es fort, hein.
Il avait raison à 50%.
Ouais, je me souviens, ça avait été un beau raz-de-marée un petit peu médiatique, enfin, avec les moyens de l'époque, mais elle devait plus être à Molusson quand elle fait troisième.
Non, elle était partie du côté de Reims, et maintenant voilà. Elle est en Auvergne, elle est plus tout dans le milieu des courses à pied.
D'accord.
Voilà, mais ouais, Françoise a fait
un beau parcours. En tout cas, je sais pas si on dit bravo, bravo, et puis merci de nous avoir ouvert un tout petit peu les portes de New York, vu de l'intérieur, et puis maintenant on se repose, non Jean-Pierre?
On se repose un petit peu, ça a créé de l'envie, et puis dans la suite des foulées, c'est un peu la suite des foulées, bah justement Bounty court, et puis il y a un groupe avec des gens de la montagne.
En loisir, ouais.
Et on avait dit qu'on reprendrait après le marathon de New York, et on va relancer ça, peut-être on va proposer peut-être des dimanches d'aller faire un petit tour, nous on aura 8 jours dans le truc, histoire de reprendre un petit peu ensemble.
Ouais.
Et puis c'était pour partager des moments comme ça, alors peut-être pas New York, mais... c'est vraiment bien.
Bien sûr. Merci voilà. Jean-Pierre.
Et ben merci à vous.
Et puis à bientôt. À bientôt, ouais.
Café des Sports. Café des Sports. L'essentiel des résultats sportifs locaux et régionaux. Pour le sport. Christophe Lipon et Bounty.
l'Amérique des années 50 dans le vieux Montluçon. Une déco US et des salades, burgers et spécialités américaines telles que hot dog et milkshake. Une ambiance rock'n'roll au cœur de la vieille ville, c'est Rock'n Diner. L'Amérique sur votre table du mardi au samedi midi et du mercredi au samedi soir de rue Grande à Montluçon. Rock'n Diner, c'est aussi sur Facebook et sur le www.rockandiner.fr.